Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show. Foot Time Show.
Allez, allez, salut à tous, amis du ballon rond. Nous sommes présents ici dans les studios RKS. Il est 19h, vous êtes dans le RKS Foot Time Show. Aujourd'hui, on va parler football. Comme d'habitude, on va parler Ligue 1, très grosse actu avec notamment une grosse annonce ce matin du côté de Rennes. On va parler bien sûr Ligue 2 et du GF 38. Et bien sûr, pour parler de tout ça, je suis accompagné de mes deux acolytes. Tout d'abord, mon Kevin qui est avec moi en studio. Salut Kevin, comment vas-tu ?
Salut Melvin et bonjour à tous. Toujours un vrai plaisir de se réunir tous les lundis à 19h pour cette émission qui est souvent imitée, plagiée mais jamais égalée.
Putain, ça c'est beau. J'aime quand ça commence comme ça. Salut mon Pierrot !
Salut les gars. Salut les auditeurs, les auditrices. Mais qu'est-ce que je rajoute derrière ce que vient de dire Kevin ? Kevin il a raison. Jamais égalée.
Et toi, mon Pierrot, mais j'ai envie de savoir comment tu vas à distance, c'est dur, on a envie de te toucher, on a envie que tu sois là à côté de nous. Est-ce que tu boues dans ton salon ?
Ah, je suis chaud comme la braise, en plus là je suis en terrasse, laisse tomber, je suis en train de faire des pompes en attendant les futurs débats. Là je suis chaud, Kevin, je vais le casser en deux. Là.
C'est bon, ça c'est bon, justement, il y a une grosse actu. Il y a une grosse actu, hein, puisque je vous l'ai dit, hein, on va y aller en Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé ce week-end et encore ce matin. Il va vraiment se passer quelque chose de top dans cette émission. Tous ensemble, mais bien sûr, on n'oublie pas qu'on est sûr.
RKS.
Et oui, bien sûr, on est sur RKS. Allez, on va ouvrir notre page football. On va ouvrir notre page RKS Foot Time Show. On va ouvrir notre page débat. Puisque ce matin, coup de tonnerre du côté de Rennes. Après les mauvais résultats, l'enchaînement des mauvais résultats de Julien Stéphan, hein, le fils de Guy Stéphan d'ailleurs. Mmh. Il a proposé sa démission au comité de direction de Rennes, qu'il a accepté.
Et rappelons quand même que la série, effectivement, que Rennes avait... avait enchaîné là sur ces 7-8 derniers matchs. On était quand même sur 7 matchs sans victoire, 2 nuls et 5 défaites. 4 défaites, pardon. Donc c'est quand même un peu...
Rennes qui pointe désormais défaites, à la 9e place du championnat. Hein.
Ouais, c'est... Enfin, on va dire que c'est tellement rare maintenant les entraîneurs qui démissionnent. Je ne sais pas si je peux en ressortir un comme ça qui avait démissionné. Ça reste...
Villas-Boas.
Oui, ouais, mi-démission, mi-virement, mi... ouais, c'est vrai, Villas-Boas, t'avais raison, Pierre. Après, je pense qu'il paye, je pense un peu la mauvaise saison. Pourtant, beaucoup de choses avaient été mises sur la table par Rennes en début de saison, avec quand même un recrutement qui avait été intéressant, ambitieux. Ça a pas fonctionné. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu le fil. Moi, je trouve qu'il faut quand même. Certains disent que la démission c'est aussi un peu une preuve de faiblesse en disant que finalement il abandonne, il jette l'éponge. Moi, je trouve que tu sais quand tu sens que ton discours passe plus avec les joueurs, quand tu sens que la solution ne peut plus venir de toi, oui, quelque part c'est bien de partir et de laisser le club avoir une chance de se relever. Plutôt avant que ce soit vraiment trop tard et que le groupe vraiment explose. Et voilà, moi j'ai rien d'autre à dire après sur ce sujet.
C'est dommage, on n'a pas eu le temps de se retourner. On aurait pu essayer d'avoir quelqu'un d'un supporter, un ambassadeur de Rennes, parce que je pense qu'il y a eu des choses qui se sont dites sous un privé à l'intérieur du club qu'on n'a pas eu, parce que je me souviens après défaite de Rennes.
C'est pas simple.
J'ai quelques connaissances.
Nous, on a un canari par miracle, mais du côté de Rennes.
Le dernier. Non, mais rappelle-toi, après la défaite de Krasnobar en Ligue des Champions, Julien Stéphan fait une communication où il dit que si c'est lui le problème du club, il peut partir, parce qu'aujourd'hui, Rennes n'est pas prêt à se battre pour le maintien, et pourtant, c'est ce qu'il va devoir faire. Derrière, c'est juste incroyable. Rennes va derrière enchaîner les victoires contre Nice, va battre Marseille, va écraser Lorient, va battre Metz, va aller faire un nul à Nantes, et va aller faire un beau nul aussi à Lyon et va derrière gagner contre Brest.
Oui, mais on avait parlé, Pierre, on avait dit que ça c'était un peu un coup de com pour essayer de rebooster un peu ses joueurs.
Ouais, mais mine de rien, ça avait marqué. Oui, parce ça que avait derrière, marché. Il était sur 7 matchs, même 8 matchs sans défaite. dont en plus 6 victoires et les 2 nuls contre des cadors de notre championnat de France. Rennes était remonté provisoirement à la 5e place, était à quelques points de l'AS Monaco et donc était donc prétendant à une place européenne. Et derrière, c'est de nouveau la même catastrophe que sur la phase de Ligue des Champions où il s'écroule sur tous les matchs. Et Rennes se retrouve encore dans le ventre mou du tableau. J'aimerais comprendre comment on peut, sur une même saison, être à la fois sur des séries de 8 matchs sans victoire et derrière d'enchaîner des prestations de haut vol avec 8 victoires de suite et puis derrière retourner comme ça dans l'anonymat et dans le néant. Je comprends pas. Je comprends pas. On peut pas mettre ça juste sur les épaules de Julien Stéphan. Moi, je suis d'accord avec Kevin. Je pense que c'est pas forcément un signe de faiblesse. C'est peut-être un aveu d'impuissance. Et il a peut-être la volonté d'aider Rennes. Et il pense que peut-être qu'aujourd'hui, Rennes a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ. Mais je peux pas comprendre comment on peut avoir 3 cycles successifs avec autant d'écart entre chaque cycle. Je me l'explique pas.
En plus, Nice, en plus que l'équipe contre laquelle ils ont joué vendredi et contre laquelle ils ont perdu, se présentait quand même avec une équipe qui était quand même bien diminuée. Il y avait toujours l'absence d'Attal, l'absence de Dolberg, l'absence de Reine Adélaïde, René Lopez, Dante n'était pas là. C'est quand même. C'était bon, même si ça reste toujours une belle équipe quand on la regarde comme ça sur le papier. Hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être. Ça faisait 4 défaites de suite. C'est sûr que ça a commencé à faire beaucoup.
Je crois que c'est quand même. Je vais quand même reprendre ce que vous avez dit. Moi, je trouve que c'est une sacrée preuve d'intelligence de la part de Stéphan, parce que finalement, il a pris le recul nécessaire. Il a dû se dire, c'est plus moi l'homme de la situation. Il aurait pu rester et puis se faire licencier ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plutôt propre de sa part, comme vous l'avez dit, de laisser la chance à Rennes de se donner un nouveau souffle. Et moi, ça me conforte dans l'idée de dire que c'est peut-être un jeune entraîneur qui n'est peut-être pas encore au top du top,
ouais,
mais qui est assez intelligent pour pouvoir prendre des décisions fortes, d'accord, malgré un consensus finalement. Parce que quand on regarde le classement, oui, Rennes est 9e. D'accord. Il y a quand même Lille, Paris, Lyon, Monaco, Marseille, Montpellier devant, qui sont des clubs plus gros. Alors oui, il y a des accidents comme Lens et Metz, des accidents entre guillemets, hein, parce qu'ils font une super saison. Il n'y a pas quand même péril en la demeure non plus.
Oui, mais Rennes se devait de faire mieux avec l'investissement qu'il y avait eu. On se disait pour une fois que...
Les gars, ils sont qu'à 3 points de Metz 5e, oui, qui est qualificatif pour l'Europe.
Mais là, je pense que c'est plus le cumul. Qui va pas, ils perdent, et en plus ils perdent pas contre des gros là, hein. Ils perdent contre Nice, contre Montpellier, contre Saint-Etienne qui mettaient pas un pied devant l'autre. Enfin, je veux dire, ils perdent aussi après en Coupe de France contre Angers, ils font match nul contre Lorient et contre Lens. Enfin, je veux dire, c'est quand même.
Messieurs, j'ai quand même une question à vous poser, parce que j'avais vu en fait après l'épisode compliqué qu'il y avait eu à Rennes, on a vu donc un Rennes qui était en honneur de Sainte, qui explosait tout, qui derrière était sur une série, comme je vous le disais, de 8 matchs sans défaite, dont 6 victoires. Et j'avais vu un reportage sur Rennes, et notamment sur le retour de Grenier en premier plan, qui enchaînait les prestations de haut vol. Et d'ailleurs, Julien Stéphan avait souligné l'importance de Grenier dans le système de Rennes et dans son renouveau, dans cette nouvelle dynamique et dans sa réussite. Quand je regarde sur les derniers matchs, Grenier n'est pas là, sauf sur le dernier match où Rennes perd, mais fait quand même, mine de rien, un match qui est quand même relativement abouti contre Nice. Et sur les 3-4 derniers matchs qui précèdent, où ils perdent, Grenier n'est pas là. Est-ce que quelque part, l'élément, le facteur X de ce stade de Rennes, c'est pas Grenier, ce joueur qui n'était pas là en début de saison quand c'était compliqué, qui est revenu au meilleur de sa forme au moment où Rennes a su récupérer une dynamique favorable et tutoyer les sommets, et derrière, nouvelle absence de Grenier et Rennes qui retombe dans l'anonymat.
Il a joué Grenier vendredi.
Déjà, il a joué vendredi.
Oui, c'est ça, c'était le seul match abouti de ces dernières.
Mais
en plus, Rennes joue bien contre Nice parce que ils ont quand même la possession, ils font quand même pas mal de tirs. C'est pas un contenu qui est catastrophique contre.
Pour ça que je pense que Grenier est le facteur X. Parce que quand tu regardes, quand Grenier n'était pas là.
L'année dernière, il ne l'avait pas, il n'a pas joué, ils ne l'ont pas fait jouer.
Mais attends, t'as Kamavinga. Ils ont joué avec l'équipe type. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand monde.
Je suis d'accord avec toi qu'il peut faire la différence, ce joueur-là.
Oui, mais juste d'un point de vue comptable, quand tu regardes les matchs gagnés avec ou sans Grenier, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Moi, j'ai l'impression que Grenier, sur les derniers temps, en tout cas sur le moment où Rennes a récupéré de sa superbe, c'était un peu comme Bordeaux avec Ben Arfa. Quand Ben Arfa n'est pas là à Bordeaux, Bordeaux, t'as l'impression que c'est une équipe qui joue le maintien.
Ouais, mais Bordeaux, et, non, ça c'est pas vrai. Pierre, regarde les stats de Bordeaux avec et sans Benarfa. Ils en ont parlé à RMC en plus une fois. Ils ont sorti les stats. La réalité, c'est que Bordeaux prend moins de points avec Benarfa que sans.
Bah, pourtant, moi j'ai vu 2-3 matchs de Bordeaux, notamment celui qui joue contre.
C'est le leader technique, c'est vrai.
Oui, mais au final, la réalité des points que tu prends avec Benarfa.
Non, mais je suis d'accord, dans le jeu, quand il n'est pas là. Après, ça n'empêche pas qu'ils sont peut-être plus efficaces sans Benarfa dans les stats.
Je sais pas, ouais, bref.
Mais...
Tu m'as peut-être trouvé l'exception qui confirme la règle, mais il y a quand même des joueurs comme ça, comme Grenier l'était avec Rennes, où quand ils étaient sur la bonne dynamique, tu dis que quand même tout passe par Grenier. Grenier a été buteur, a été passeur à de multiples reprises quand il y avait cette bonne dynamique. Et j'ai l'impression vraiment que pour ce stade rennais, ça se joue à pas grand-chose, comme le match contre Nice. Et le facteur X, pour moi, il a été cette année, en tout cas sur ces derniers matchs, au niveau de Grenier.
Après, à Bordeaux, Benarfa, excuse-moi, il a que des peintres autour de lui, il faut dire la vérité. Là, quand même, quand autour de toi, tu as Nzonzi, Kamavinga, Guerassi, Terrier.
Moi, Nzonzi, j'aime pas.
Ouais, mais ça reste quand même un joueur qui devrait être au niveau dans un championnat de Ligue 1. Je suis désolé. Hein.
Mm-hmm. Donc, en Ligue 1, ça doit suffire.
Voilà, ça doit suffire. Messieurs, qui pour le remplacer? J'ai envie de vous dire, heureusement, Antoine Kangouaré a signé quelque part, donc il n'a pas été sur les tablettes, parce que sinon il aurait été, c'est forcément. On entend fortement Pep Genesio et Jocelyn Gourvennec.
Bah, moi, je verrais bien Pep Genesio. Moi.
Ouais, peut-être.
Je pense.
Peut-être que Genesio, ce sera peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver. Même si moi, j'ai toujours des gros doutes sur ses capacités à entraîner au haut niveau, mais peut-être que Rennes, c'est le
type de club. Ça peut être intéressant de voir dans un club
comme
ça.
C'est le club qui peut peut-être lui correspondre. Il y retrouverait notamment des joueurs qu'il a déjà croisés. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Tant financièrement que sportivement pour les deux, je pense que ça peut être intéressant vraiment d'avoir.
Ouais, je trouve qu'au niveau de l'image, c'est cohérent. Genesio, on pourra toujours le décrier, dire que c'est pas un top entraîneur. Il a quand même fait des belles choses. Mmh. Notamment dans sa double confrontation face à Manchester City. C'est aussi un moment la patte des entraîneurs. C'est un moment sur un match de pouvoir s'élever au rang des meilleurs. Pep Genesio l'a fait sur des choix forts. Je pense qu'il a la stature, il a le niveau pour entraîner un club de Rennes, même un club de Rennes qui pourrait essayer de jouer les places européennes. Alors ça ne sera pas cette année, ce sera les prochaines années.
Et pourquoi Genesio ça ne serait pas cette année? Bah si, ils sont à 3 points. Ils sont à 3 points de la Coupe de l'Europa League.
On verra, je sens pas Rennes capable dans la durée. Il va arriver, il va insuffler une nouvelle dynamique, un nouveau souffle. Moi, je serais quand même étonné de les voir européens l'année prochaine. Mais en tout cas, Genesio a le niveau pour moi pour une équipe de Rennes qui termine voilà en Ligue Europa. Genesio, pour moi, il n'a pas le niveau pour être à Lyon, pour être à Paris ou pour être à Lille actuellement. Mais c'est un bon entraîneur pour un club de Ligue 1 qui va jouer la 4e ou 5e place.
Et puis je pense que c'est dans les strates rennaises, dans l'esprit, dans le profil.
Oui, il y a Florian Maurice. Hein,
c'est ce que j'allais dire. Il y a Florian Maurice. Je pense que c'est il y a de grandes chances que ça soit quand même Genesio qui le remplace. Et ça peut être une bonne chose de voir évoluer cet entraîneur qui a été mis sous les projecteurs très rapidement dans un gros club. De le voir.
On nous parle pas de Laurent Blanc là actuellement là.
Ah, trop cher. Il est déjà en plus en poste Laurent Blanc là.
Trop cher. Et puis il est au Qatar Laurent Blanc. Ouais. Laisse-le tranquille. Il y a pas de confinement. Il fait ce qu'il veut. Ouais, mais là je pense que si Laurent Blanc n'a pas accepté Lyon, n'a pas accepté des postes grands et qu'il accepte Rennes, excuse-moi, là,
ouais, c'est pas qu'il n'a pas accepté Lyon, je pense que
ils sont pas entendus. Donc ça c'est autre chose. Messieurs, on va clôturer hein, le chapitre Rennais. On est toujours dans le RKS Foot Time Show et on est sur bien sûr la radio.
RKS Foot Time Show.
Le quiz.
Non, bon. Tu t'es trompé de bouton. Je
suis trompé, t'es sûr?
Ouais. RKS.
Là, on est sur RKS.
J'ai ripé d'un petit doigt, mais ça fait partie du direct. C'est des choses qui arrivent, bien sûr. Justement, on va continuer hein, dans cette 27e journée à Bordeaux. Et puis Bordeaux qui continue leur chute libre et face à un Metz, moi, de Antonetti qui me régale, messieurs.
Mais oui, mais tu sais, on en parlait dans notre petite conversation privée avec d'autres intellects du foot. Qu'on salue d'ailleurs, on en parlait, on disait, putain, on vit dans un championnat où Metz et Lens occupent les premières places du classement. Et il y en a qui disaient, oui, mais le championnat est d'un niveau exécrable. Je suis pas convaincu.
C'est pas une question de niveau.
Cette année, pour moi, c'est pas une question de niveau. Pour moi, j'ai l'impression que cette année, et heureusement, Lille joue son atout jusqu'au bout. Lyon, on va en parler un peu plus tard, mais du moins essaye aussi de le faire. Monaco s'est remis dans le droit chemin. Mettre ses lances prouve que c'est pas avec des millions qu'on peut forcément faire du beau jeu. On peut aussi bien jouer au foot avec des budgets plus modestes, chose que moi je réclame depuis.
Mais c'est peut-être une question de philosophie en plus que de l'argent.
Mais bien sûr,
ils vont pas au Paris Saint-Germain pour faire mettre jeu.
Mais bien sûr,
ils y vont pour gagner.
Voilà, ouais. C'est ça. Et donc Metz, tu vois, qui gagne contre Bordeaux, c'est très bien. C'est plus symptomatique du niveau de Bordeaux qui n'est pas vraiment là. Mais pour moi, c'est pas parce que Bordeaux et Marseille sont en train de rater leur saison que la Ligue 1 a perdu de niveau. Pour moi, je pense que, et je l'ai toujours dit, notre Ligue 1, elle sera attractive et elle sera compétitive quand on aura 3-4 équipes qui peuvent se disputer la première place, et derrière, quand on aura des équipes, notamment des équipes modestes, qui n'iront pas que pour mettre le bus devant et attendre effectivement la fin du match, ou du moins donner les clés du match déjà aux grosses équipes avant de les avoir jouées, et se dire, bon, de toute façon, on va en prendre 4, donc quitte à les prendre, on va les prendre, comme ça au moins c'est fait, et on passera au match suivant. Moi, je suis très très enthousiaste de la Ligue 1 cette année, parce que je trouve que c'est ce qui se passe avec notamment des clubs comme même Brest, je trouve que c'est pas mal, Lens, Metz, Montpellier, j'ai toujours bien aimé, Lorient, il confirme encore ce week-end que c'est une équipe qui a des choses aussi à montrer sur le terrain, même s'ils avaient raté leur début de saison. Donc c'est, pour moi, ça c'est positif, et ça fait avancer le football en France.
Et puis, tu sais, on en avait parlé du FC Metz alors de manière sommaire, hein, lors d'une émission passée, au moment où le FC Metz était allé gagner contre l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas si vous en rappelez.
Bien sûr.
Et on avait vanté notamment le mérite qu'avait le FC Metz de jouer offensif avec cette forme en 3-5-2. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai retrouvé encore contre le match contre Bordeaux. C'est une équipe qui va de l'avant, qui est offensive, qui marque des buts et qui en plus a su faire jeu égal. C'est là où je rejoins Kevin, c'est que le FC Metz n'est pas là par hasard. Quand tu vois le match qu'ils ont fait contre Lyon, et Dieu sait que Lyon m'impressionne, et je le dis encore, même si là, bon, ça n'a pas payé, parce qu'ils ont fait que 30 minutes sur le match, quand Lyon joue vraiment à son vrai niveau, comme ils avaient pu l'être face au FC Metz, franchement, le FC Metz n'a pas à rougir d'être cinquième de Ligue 1 aujourd'hui. Je trouve que c'est plus que mérité. Et c'est vrai que la patte Antenotti apporte vraiment quelque chose. Enfin, moi, je me mets à la place des joueurs. Quand tu le vois sur le banc, ce mec-là, t'as pas envie d'être sur le terrain. Ou alors, si tu es sur le terrain, je peux te promettre que tu te bouges le cul. Hein. C'est autre chose que comment il s'appelle, notre cher entraîneur nantais qui est parti prématurément.
Ah, Romain Domenech.
Voilà, ce qu'on avait d'ailleurs la semaine dernière.
Bonjour. Oui,
il est encore avec nous. C'est un fantôme. Merde.
Je vous trouve vraiment pas très... pas très...
Après, on aime ou on n'aime pas. Chacun fera son avis. Je sais
espèce
pas,
de journaliste.
Et je sais pas, Melvin et Kevin, vous, ce que vous aimez, mais je trouve qu'il est un peu dans la trempe d'un Bielsa ou de ses entraîneurs. Alors,
peut-être pas Bielsa, mais
je pense que c'est différent. En plus, je pense honnêtement qu'en plus de proposer du football, il s'est quand même créé une histoire au FC Metz avec Antonetti. Fait qu'il l'ait gardé pendant qu'il était auprès de sa femme, femme décédée. Voilà, il y a plein de choses qui font que je pense que le FC Metz, en plus de cet élan footballistique, a pris un élan aussi au niveau mental, et je pense qu'ils ont créé quelque chose fort.
On a été assez injuste en France avec cet entraîneur, parce que il a souvent été victime un petit peu de son image. Ouais, de quelqu'un
de Corse, mais c'est vrai,
de Corse qui gueulait sur le terrain et qui râlait et qui voilà. On l'a plus vu comme un personnage que comme un véritable entraîneur qui avait des idées, mais moi j'ai le souvenir quand même qu'il avait aussi très bien fait jouer Rennes aussi à un moment, que Nice, ouais, à l'époque où il l'avait, ça avait bien fonctionné un temps aussi. Il a quand même ressuscité un petit peu Saint-Etienne à un moment donné. D'ailleurs, moi j'avais eu dans mon émission Michael Citoni et Simon Carmignani qui l'avaient côtoyé justement lors du titre en Ligue 2. Ils en disent le plus grand bien. Donc c'est quand même pas n'importe qui, Frédéric Antonetti.
Quand tu le vois, on dirait le 12e homme. Hein. C'est vraiment un entraîneur pour moi qui est le 12e homme.
Moi j'adore. Moi j'aime bien
la manière dont il place ses joueurs. Il est toujours à l'extérieur de sa zone technique. Il est là, il fait bouger les joueurs, il déclenche les appels. Je trouve que ce mec là fait vraiment, t'as l'impression que c'est un 12e joueur.
Tu vois, moi si souvent on les a mis un peu comparé, mais Duprat et Antonetti, ils peuvent être entre guillemets considérés comme des grandes gueules sur le terrain et à tout miser sur le mental, ouais, etc. Mais moi, si j'ai un choix à faire, je prends 10 fois Antonetti, parce que Antonetti, c'est pas qu'une grande gueule.
Il n'y a pas photo.
Sur le terrain, il travaille tactiquement.
C'est quelqu'un de discret.
Alors que Duprat, alors avec à part sa grande gueule, il n'a pas grand chose.
Non, je suis d'accord avec toi.
Messieurs, il faut rendre à César ce qui est à César. Dupraz qu'il a fait avec Kevin Antonon Gaillard, ça reste quand même assez exceptionnel.
Non, mais Dupraz, c'est derrière... Hercule, c'est pas César. Non, mais c'est du passage en force. Il a récupéré un club qui avait de l'argent, qui s'est monté dans une effervescence. Ça, c'est ça. Regarde ce qu'il fait à Caen, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe en Ligue 2, on pourra en parler. Je crois pas que ça soit du coup de la trempe.
Mais Dupraz, c'est peut-être l'entraîneur d'un coup, le coup d'un soir, quoi. C'est,
À la Comboiré.
Non, mais Comboiré, je trouve que aussi il est pas con, ce mec aussi, Comboiré.
Moi, j'aime bien Comboiré.
J'aime bien Comboiré aussi. Je pense qu'il a pas eu de chance et qu'il est un peu peut-être victime aussi un petit peu de ses idées par moment. Peut-être qu'il est pas allé dans les bons clubs au bon moment aussi.
Messieurs, je vais vous donner une anecdote sur Pascal Dupraz. Anecdote qui m'a donné en personne. Hein. Il était intervenu lors d'un meeting qu'on avait fait. Et Pascal Dupraz était venu. Pascal Dupraz était certain, il était sûr de prendre la relève après que Jardim soit parti à l'AS Monaco. Et donc c'est Thierry Henry qui avait été appelé. Mais il avait très très mal vécu cet épisode, Pascal Dupraz, parce qu'il était certain et convaincu qu'après Jardim, c'est lui qui aurait été appelé pour prendre la succession de Monaco. Et il était plein d'enthousiasme, avec beaucoup d'espoir, en voulant donner un nouveau virage et une nouvelle dynamique à sa carrière, passer dans une autre strate. Et ça s'était pas fait, et il l'avait très 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 mal vécu.
Même parce qu'il a pas le niveau.
Ouais, je pense qu'après il faut savoir se remettre en question.
D'ailleurs, il avait mis un magnète du maillot de l'AS Monaco sur son frigo, et tous les matins il passait devant avec l'espoir
d'être là. Rien que ça, ça te donne un petit peu une idée.
Et qu'il savait que c'était inespéré pour lui.
Lui, je sais pas, c'est un peu comme je vois pas comment tu. C'est un peu comme un joueur très moyen de Ligue 1 qui dirait bah moi je vais les signer au Real Madrid l'année prochaine parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9 c'est comme si Benedetto l'année prochaine il te dit je vais jouer au Real Madrid parce que il est temps de prendre la succession de Benzema, quoi.
Fais gaffe, Martin Braithwaite, il est titulaire du côté du FC Barcelone.
Ouais, bah c'est pareil,
tout peut arriver dans le football.
Non, mais même, enfin, je veux dire, il faut rien que ça, l'arrogance déjà que dont il fait preuve, mais sur le terrain et en dehors, ça c'est bien connu, hein.
En parlant d'arrogance, on va basculer sur un autre match, hein, parce que ça a fait débat.
Ah, oui.
Ouh là là, mon kiki. On a eu peur, le Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas de joueurs. Hein, ils étaient démunis, ils allaient presque avec l'équipe C. Ils sont quand même imposés 4-0 du côté de Dijon. Puisque même Dijon, avec l'équipe A, c'est une équipe de CFA 2. D'accord, on va pas se mentir. Par contre, les gars, un bon match du Paris Saint-Germain. Malgré qu'en face, il n'y avait pas forcément grand-chose, un bon match du Paris Saint-Germain.
Mais heureusement, ils ont 15 points, Dijon, cette année.
Attends, messieurs, parce que cette émission, à la base, à la genèse de la création de cette émission...
C'est un débat.
C'était un débat. Et moi, je tiens à dire un truc, c'est que, je le dis parce qu'en ce moment, je trouve qu'on n'est pas assez en désaccord, Pascal Dupraz, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est un bon entraîneur.
Il n'est pas bon.
Pour moi, c'est un bon entraîneur, et tu as qu'à te référer à ce qu'il a fait quand il a repris le football Toulouse Club et qu'il l'a maintenu dans l'élite, alors que c'était un club qui était en balotage. Triplement défavorable.
Mais c'est un pompier. C'est un coup d'un soir,
ouais,
Pierre.
Mais regarde, mais c'est un coup d'un soir. Comboiré, c'est un pompier. Comboiré, sauf que Comboiré, c'est le passeur vers la Ligue 2. Comboiré, à chaque fois qu'il prend un club,
c'est pas
il
vrai.
Est là pour caresser c'est un peu vrai. Les joueurs et les amener c'est gentiment vers la Ligue 2.
C'est pas vrai.
Moi, c'est mon ressenti.
Mais je te rappelle, toi, supporter parisien, je te rappelle que quand Comboiré, vous le virez très salement au mois de juin, Comboiré vous laisse quand même premier avec quelques points d'avance sur Montpellier, hein, c'est ça. Et au final, c'est Ancelotti après que vous appelez. Bon, j'ai rien à dire sur Ancelotti, hein, c'est un dieu.
Qui a été viré injustement aussi.
Mais qui a été viré tout aussi injustement.
Pour moi, Dupraz est devant Comboiré. Pour moi, il n'y a pas photo.
Non, on parle de Dupraz et Antonetti. Comboiré et Dupraz, c'est pareil.
c'était pas ça le débat.
C'est la même trempe.
Dupraz, je suis désolé. Ce qu'il a fait avec Kevin Antonon Gaillard, la manière dont il l'a porté jusqu'à l'élite, avec en plus des épopées en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, en tapant des gros, qui a été quand même assez exceptionnel, et la manière dont il maintient le football Toulouse Club. Il faut savoir qu'en plus, quand il a été recruté à Toulouse, moi je vous le dis parce que pareil, j'ai eu l'anecdote en off, quand il a été recruté à Toulouse, les dirigeants lui disent texto, on sait que le club va descendre en Ligue 2, c'est acté, c'est impossible de rester en Ligue 1. Nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer de recréer
un
groupe.
Oui, mais Dupraz, c'est un entraîneur qui fonctionne comme ça. Il arrive, il pose ses couilles dans le vestiaire et il harangue les joueurs parce qu'il a quand même un peu de charisme, il sait trouver les mots. Mais sur la longueur, il ne propose rien sur le terrain. Un entraîneur, tu dois quand même le juger par rapport à comment il fait jouer ses équipes. Enfin, je suis désolé, il y est allé tout en force avec Toulouse, ça a marché. Mais après, derrière, ça a été la catastrophe l'année d'après avec un recrutement, un peu comme l'image de Rennes cette année. il maintient Toulouse de manière assez inespérée. L'année d'après, du coup, qu'est-ce qu'il fait? On lui amène plein de joueurs. Je me souviens que Imboular avait aussi signé avec plein d'autres joueurs aussi. Et au final, il a quitté Toulouse de la même manière qu'il l'avait récupéré un an avant. Donc, faut arrêter au bout d'un moment avec Pascal Duprat. Lui, oui, t'as besoin de 15 points pour te maintenir et il te reste 5 matchs à jouer. C'est lui que tu vas appeler. Mais t'as besoin de lui sur toute une saison.
On ne dit pas que c'est un peintre, c'est un bon entraîneur.
On n'a pas dit que c'était un peintre, on a dit que c'était un coup d'assoir.
Voilà. C'est un coup d'assoir. Et des coups d'assoir, il y en a des bons.
Voilà. Mais est-ce que tu feras ta vie, est-ce que tu feras toute ta vie, toute ta vie avec un coup d'assoir, non?
À la Costa Brava, Melvin.
Exactement, il y en a des bons. Il faut en parler. Reprenons.
Vas-y, Melvin, exprime-toi, c'est le moment où t'as le micro.
Reprenons, oui, c'est, justement, bientôt le Paris Saint-Germain va jouer contre Barcelone, donc c'est quelque chose d'intéressant de parler du côté de l'Espagne. Non, mais pour reprendre ce match de Dijon face au Paris Saint-Germain, on a vu un bon Paris Saint-Germain qui était libéré, qui était facile.
Mais Dijon.
Ben oui, c'est pour ça. C'est ce que je dis face à une équipe. Je sais pas ce que t'en as pensé, Pierre. Mais
on sait que cette équipe du PSG elle est bonne contre les équipes qui sont pas en confiance et qui sont pas fortes. Hein. Ça c'est pas gênant. Hein.
Là où je rejoins, tu vois, à défaut d'avoir été d'accord avec Kevin sur la question d'avant, là je suis d'accord avec lui. C'est que le Paris Saint-Germain, si aujourd'hui ils ont une différence de buts de plus 44, soit 14 buts de plus que ses concurrents directs, c'est que le Paris Saint-Germain est très très fort contre les équipes très très faibles. Ça, c'est le vrai plus du Paris Saint-Germain. Après, j'ai envie de te dire, c'est ce que j'ai dit à tout le monde et à tous ceux qui m'ont posé la question avant le match, quand tu as un effectif dans lequel Paredes est blessé, Verratti est blessé, Di Maria est blessé, Neymar est blessé, Icardi il avait une gastro-entérite, bref, l'équipe du Paris Saint-Germain, elle était décimée, tu n'avais aucun maître à jouer, tu n'avais personne.
Regarde le 11 de départ.
On aurait joué, oui, mais le 11 de départ, t'as Danilo qui est traumatisé de Tuchel, qui achète.
Mais derrière, il y a déjà Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Kerrer,
oui, Rafinha. J'étais pas inquiet pour la défense. Par contre, tu m'aurais dit avant le match que le Paris Saint-Germain aurait gagné 4-0. J'aurais signé, j'aurais même rajouté un billet.
Non.
Après, je pense que l'équipe de Dijon, l'équipe, non, je pensais pas qu'on allait gagner 4-0, sincèrement, les gars. Enfin,
contre Dijon, ils ont pas gagné depuis, ils ont pas gagné en 2021, Dijon. J'ai les stats là.
Je savais que
le PSG, même s'ils jouent avec l'équipe réserve, même sans tous ces noms là qui sont sur la feuille de match, plus tous ceux qui sont absents, non, même sans tous ces joueurs là, ils gagnent. Donc même 1-0, ils pouvaient gagner. Par exemple, t'as Kylian Mbappé.
Je suis d'accord avec toi, mais je savais que le Paris Saint-Germain allait gagner. Après, ils ont quand même gagné correctement, ils ont fait un match sérieux, ce qu'il fallait faire. Ils auraient certainement pu peut-être en mettre plus, mais encore une fois, c'était avec l'équipe qu'on avait, il ne fallait pas jouer le FC Metz ou le RC Lens.
C'est sûr.
Parce que j'étais inquiet peut-être par rapport à l'éventuel déroulé du match. Après, pour le reste, c'est la meilleure équipe du championnat de France qui rencontre la pire équipe du championnat de France. Donc après, débattre là-dessus, je pense qu'on va gagner du temps.
Non, moi, je voulais débattre sur ce qui s'est passé à la mi-temps.
Par contre, attends. Moïse Kine, à la fin de la saison, il vaut 150 millions. Everton bientôt. Non, mais il est à 80, là.
Oui, mais il avait... Attends, mais ça, c'est pareil, c'est l'offre et la demande, Melvin.
Il est annoncé à 80, mais en off, Leonardo, par rapport à ce qu'il peut se dire dans l'état-major parisien, on parlerait plutôt d'une offre entre 30 et 40 millions d'euros. Aujourd'hui, non, mais on tombe plus entre les 40 et les 50 millions.
80 millions d'euros,
est-ce que tu les mets?
Non, mais déjà,
tu les as mis sur Icardi qui avance pas.
Non, mais attends, il faut réfléchir un petit peu et parler du contexte. Keane ne veut pas retourner à Everton, il se sent mal à Everton. Everton ne veut plus de Keane.
C'est vrai, donc, je suis d'accord avec toi. C'est un bon deal.
Donc ils vont trouver un accord. Ça sera peut-être pas 80 millions parce qu'il faut pas non plus exagérer.
Non, mais 50-60, ça peut.
Je pense que Leonardo, même si je suis pas convaincu de toutes ses capacités et de tout ce qu'on en dit, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour pas les mettre. Donc ils vont trouver un accord. Ça va se situer à 40-50 millions d'euros et puis ce sera réglé.
Très bien pour en ce moment, hein, ce qui se dit à l'heure actuelle, au moment où on se parle, le Paris Saint-Germain et Leonardo est déjà en train de travailler avec Everton sur la forme d'un prêt, un nouveau prêt payant avec obligation d'achat
avec une clause
d'obligation d'achat obligatoire ou non, mais on serait plutôt là-dessus. Aujourd'hui, on est sur un prêt payant avec une option d'achat assortie à peu près aux 50 millions d'euros pour l'année prochaine. C'est ce qui est actuellement sur les tablettes de Leonardo et d'Everton pour la gestion du kaki.
Ok, parlons de ce qui s'est passé à la mi-temps justement avec Kylian Mbappé. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits déjà, mon Kylian?
Bon, on est à la mi-temps du match, ils sont sur le point de revenir sur le terrain. On entend Mbappé qui parle à Marquinhos et qui dit « Marquis, il faut leur dire là maintenant qu'on y va ». Il y avait 2-0 je crois à la mi-temps. Il faut leur dire qu'on y va, si on peut mettre 6-7 buts de plus, on va pas se priver. Moi je dois repartir avec le ballon du match à la fin, etc. etc. Ça a fait un peu réagir sur les réseaux sociaux. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert ces images-là, est-ce que je suis surpris? Non, parce que je commence un petit peu à connaître un peu Kylian Mbappé, à voir comment il réagit et comment il agit. Maintenant, tu joues contre le dernier du championnat. C'est ce genre de discours-là, il faut les avoir au moment où tu joues des équipes plus difficiles. Maintenant, je dois repartir avec le ballon à la fin du match.
Moi, c'est ce qui m'a dérangé.
Pourquoi ?
Parce que les enfoncer, leur en mettre 10, c'est pas un manque de respect, c'est un compétiteur, il doit les enfoncer.
Ben oui.
Par contre, qu'il soit égoïste en disant « je dois repartir avec le ballon du match », ça, moi, ça m'a dérangé. Parce que ce soit Moïse Kean, Rafinha, Pereira qui marque, c'est
moi,
la même chose.
Mais même moi, ça me dérange. Enfin, je veux dire, tu joues contre une équipe qui est très faible, tu as la main mise sur le match, tu sais très bien que tu ne seras jamais inquiété parce que de toute façon, tu mets 2-0 et à partir du moment où tu mets 2-0, il n'y a rien à dire. Et qu'en face, tu sais très bien qu'ils n'auront jamais le caractère pour pouvoir, ni le mental pour pouvoir revenir. Tu peux en mettre 6 ou 7, mais tu n'es pas obligé de le dire. Enfin, je veux dire, on continue comme ça, les gars, on reste sérieux. Je préfère quelqu'un qui dit on reste sérieux et on continue notre match comme s'il y avait 0-0.
C'est plus intelligent.
C'est plus intelligent, c'est moins arrogant, c'est plus dans le respect de l'adversaire. Maintenant, il faut leur dire écoutez, on en met 7. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais non.
Son discours est arrogant.
C'est
maintenant,
pas ma philosophie.
La forme est mauvaise, on est d'accord. Dans le fond, il a raison, il faut dérouler, il faut y aller, c'est un compétiteur. Tu vas me dire ce que t'en penses, hein, Pierre. Moi, la seule chose qui m'a dérangé, c'est ce côté égoïste où qui dit qu'il doit repartir avec le ballon. Donc, en gros, l'équipe doit le faire briller, lui faire marquer un triplé.
Les gars, ça c'est des causeries de vestiaire, c'est le côté compétiteur. Après, Mbappé, il a pas 35 ans, c'est encore un gamin. Il en a planté 3 au Barça. Si s'est écroulé au Barça, qu'il avait fait un match tout petit et que derrière il la ramène
c'est
en
vrai,
parlant d'un triplé contre Dijon, ouais, là j'aurais dit commence déjà par faire des grands matchs dans les grandes rencontres et puis après on en reparlera. Là le mec il est dans cette dynamique, il a fait un grand match contre le FC Barcelone, il a été couvert de laurier, il a bien fonctionné. Voilà, là c'est une causerie de vestiaire. Moi le premier, quand je faisais du basket, parfois t'as un sursaut d'orgueil, tu fais une bonne première. Et puis l'adversaire en face, pour X ou Y raison, bah, tu l'aimes pas trop. Et puis dans le vestiaire, c'est le but, c'est aussi un moyen de se motiver. Moi, il n'y a rien qui me choque. Je trouve que c'est encore des débats à la française.
Voilà. Moi, je trouve que c'est maladroit, mais ça me choque.
Surtout, même si c'est maladroit, c'est une histoire de vestiaire. Enfin, je veux dire, on n'est pas en caméra cachée dans vos coupes. Il y a des moments où il y a des trucs qui doivent être un peu macho et puis puéril, comme ça peut être dans le mien. Et voilà, et heureusement que tout n'est pas popularisé.
On a vu que c'était pas macho du tout, justement. C'est bien ça le problème.
Attends, les choses sont sorties de leur contexte, mais bon, on en reparlera. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un débat de vestiaire qui n'avait même pas été médiatisé.
Non, mais pour moi, tu vois, c'est peut-être des trucs à la française, comme tu dis, mais moi je suis désolé, c'est là où je vois la différence entre des joueurs qui ont la classe et des joueurs qui n'en ont même pas un gramme.
Ça, je suis d'accord.
Et ça, c'est. Je trouve ça dommage. Après, ça ne mérite pas qu'on y passe 20 minutes à essayer de se convaincre de qui a raison et qui a tort. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on en dit tellement des choses de ce Mbappé, qu'il est merveilleux, qu'il parle bien, qu'il sait aligner une phrase avec un sujet, un complément d'objet direct et un verbe. C'est super, c'est des exploits que sans doute personne n'a encore jamais réalisé dans le football, hein, vu comment tout le monde en parle. Mais moi, je suis désolé, il faut aussi 2 ou 3 personnes qui... fasse redescendre tout le monde d'un cran parce que je suis désolé mais ce mec c'est pas l'abbé Pierre non plus quoi. Donc voilà, moi c'est ça qui me dérangeait surtout, c'est pas des dialogues de français de bas étage. Moi je suis le premier à dire des fois qu'il y a des dialogues de français de bas étage. Moi je suis désolé, je trouve qu'on en fait des tonnes pour pas grand chose des fois avec ce mec.
Ouais, voilà. Mais en fait c'est le problème, de toute façon c'est ce que disait Kylian Mbappé, mais c'est ce que disaient d'autres. Rio Ferdinand l'autre fois le disait sur les chaînes anglaises. Le problème, c'est quand tu es un grand joueur, tu as la couverture médiatique et tu as l'intransigeance de toute façon des passionnés du football. Mbappé, dès qu'il fait la moindre petite chose, c'est x10, x15, que ce soit dans ses bons et
mais
ses mauvais
penchants. Mais c'est pas le seul joueur dans ce cas-là ?
Non, mais c'est pas le joueur. Mais je sais que c'est le lot d'un professionnel de football. Ils le savent, Mbappé l'avait dit. Quand tu as des objectifs comme les siens, tu sais très bien que tu as attendu au tournant et que de toute façon, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas penser va être extrapolé, va être médiatisé. Donc voilà, moi écoute, j'entends qu'à un moment ça puisse éventuellement égratigner chacun. Je pense que c'est avant tout une causerie de vestiaire qui à la base doit rester dans un vestiaire. Et puis pour le reste, je trouve que c'est de son âge, il a 22 ans. Voilà, faut aussi se remettre les choses en perspective.
Messieurs, un autre match qui nous intéresse aussi, c'est Monaco face à Brest. Un Monaco qui continue sa bonne forme et qui s'impose 2-0 face à Brest avec des buts de Jovetic et Kevin Volland dans le dernier quart d'heure, messieurs.
Bah vas-y Pierre, ouais. Hein, je crois que tu avais regardé le match.
Ouais, j'ai regardé le match. J'ai regardé un peu la première et puis surtout la fin de la deuxième. Ça a été un match qui a été assez intéressant, assez équilibré sur le tout début du match. Brest fait une bonne entrée en matière. Et puis après, je trouve que la différence se fait en deuxième mi-temps. Monaco, en fait, de toute façon, la victoire est sortie du banc. Quand à 30-35 minutes de la fin du match, tu es capable de faire rentrer Jovetic, tu es capable de faire rentrer Golovin en même temps Fabregas. Voilà, Brest en face, je suis désolé, mais ils n'ont pas le même banc. Donc c'est bien, Monaco a un effectif pléthorique, ça leur a pas forcément servi sur ces dernières années, on l'a vu. Et là, pour le coup, bah, c'est un coaching gagnant. Jovetic est très intéressant, à chaque fois qu'il fait une entrée, il est rarement titulaire, mais c'est toujours une valeur sûre, notamment avec son coup franc qu'il avait planté il y a quelques matchs. Donc voilà, c'est une victoire du banc. Et ça va être là encore où on prend la mesure à quel point Monaco va être dur à bouger, parce que Brest, c'était vraiment pas une victoire facile, c'est un club qui joue bien au football, comme le disait tout à l'heure Kevin. Et sincèrement, ils sont allés chercher la victoire en toute fin de match. Ils sont intraitables. Et surtout, entre le match contre le Paris Saint-Germain où ils ne prennent pas de but, ce match où ils ne prennent pas de but, Kovac avait dit il y a quelques matchs, la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a un monde d'écart entre Lille, Lyon et Paris et Monaco, c'est qu'on prend beaucoup trop de buts. Et depuis qu'il a eu cette conférence de presse, je crois que Monaco n'a pris aucun but. C'est là où aujourd'hui, on prend la mesure à quel point Monaco devient...
Si, Monaco, ils prennent des buts.
Au travers de ce match, hein, au travers de ce match, parce qu'ils reviennent de toute façon à 4 points de Lille et à 2 points du Paris Saint-Germain et à 1 point de Lyon, Monaco est officiellement rentré dans la course au titre de Ligue 1 aujourd'hui.
Monaco, enfin, ils prennent peut-être moins de buts qu'il y a une période, mais ils prennent toujours des buts. Hein. Ils sont à 12 buts encaissés sur les 10 derniers matchs. Je parle des 10 derniers matchs parce que sur les 10 derniers matchs, Monaco prend 28 points. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que fais que des victoires et un nul sur 30 points possibles. Donc c'est quand même...
C'est pour ça que je note une légère amélioration sur ce point et sur la faculté qu'a aujourd'hui l'AS Monaco à prendre moins de buts sur les deux derniers matchs. Et s'ils arrivent à garder cette dynamique avec toujours ces tueurs devant le but et à la fois une défense retrouvée, sincèrement, Monaco peut aller chercher une place en Ligue des Champions, voire le sacre en fin d'année.
C'est l'équipe qui met le plus de buts, en plus, sur les derniers matchs aussi. Hein, ils ont mis 7 buts de plus que le PSG. 6 buts de plus que le PSG, pardon. 7 de plus que Lyon.
C'est la deuxième meilleure attaque du championnat.
C'est la deuxième meilleure attaque du championnat.
La 11e mais moins bonne défense, mais je crois surtout que l'AS Monaco est la meilleure équipe au niveau comptable hein, d'Europe sur l'année 2021 depuis le début de l'année.
Ça c'est sûr, ils n'ont pas perdu depuis le 12 décembre je crois, donc ça c'est sûr. Bon travail de Kovac, ce club. Après on sait que souvent le Monaco, le challenge c'est pas de faire bien une saison, c'est de faire bien la saison d'après aussi.
Après
on va leur laisser finir cette saison tranquillement.
Laisser finir, mais c'est très positif.
Moi
pour
j'ai
le championnat
quand même
de France.
Très peur pour Lyon. On va aller en parler tranquillement après de cet Olympico. Mais je vois Lyon depuis quelques semaines qui justement, un peu à l'inverse de Monaco, qui n'est pas rassurant sur le terrain. Je parle de performance, je ne parle pas de résultats. Et ça m'inquiète. Et je me dis que si la tendance se confirme pour les deux clubs, Lyon va rapidement sortir de ce podium. Et Monaco va certainement encore pour continuer de prendre des points. Donc, je n'ai pas encore fait attention sur les prochaines. Le calendrier. Bon, mais...
le calendrier, l'avantage de Lyon, entre guillemets, c'est qu'ils ont le destin entre leurs mains puisqu'ils jouent tous les gros. Donc après, soit ils répondent présents dans les matchs puisqu'ils vont jouer Lille, ils vont jouer également. Oui, vas-y.
Je vais vous les donner parce que je les ai notés. Journée 29, Monaco-Lille. Donc je vous donne juste en fait le final four en fait de la Ligue 1. Journée 29, Monaco-Lille. Journée 30, Lyon-PSG. Journée 31, PSG-Lille. Donc là on voit que déjà le PSG sur deux journées il joue Lyon puis Lille. Hein. Et après journée 34, on a Lyon-Lille. Et journée 35, Monaco-Lyon. Donc Lyon joue à son tour sur la journée 34 et 35, Lille et Monaco à la suite.
Ouais. Donc je pense que ça va jouer là-dessus. On en reparlera là dans
bah
l'Olympico dans un instant.
De toute façon, je pense qu'à la journée 35, ça sera plié. Là où je veux entendre Kevin, et puis aussi un peu Melvin d'ailleurs, c'est aussi, parce qu'on parle du terrain, mais il y a aussi en dehors, On avait fait un grand débat entre Juninho et Leonardo. Juninho a encore fait une conférence de presse qui a duré quasiment 20 minutes, où pendant 17 minutes, il dit qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle se retrouve Lyon, et si Lyon n'est pas large leader de la Ligue 1, c'est toujours et encore une fois à cause de l'arbitrage. Alors messieurs, alors, qu'avez-vous à dire par rapport à ça ?
Écoute, moi je vais te donner mon sentiment. J'ai trouvé extrêmement bon Rudy Garcia hier soir en conférence de presse. Il a juste fait un petit clin d'œil à l'arbitrage, qui effectivement n'a pas forcément été bon, mais il a reconnu qu'ils auraient dû tuer le match et que le nul est équitable. Je pense qu'effectivement, Juninho n'a pas été bon du tout. Mais c'est son rôle, c'est son rôle. C'est son rôle de mettre la pression sur les arbitres.
Je rappelle que Leonardo avait été un petit peu, était parti du PSG à la suite d'une polémique après laquelle il avait râlé après un arbitre.
Ouais, c'est pour ça. C'est leur rôle au directeur sportif et au président.
Bon, on va pas encore refaire le débat de Leonardo Juninho, mais moi je suis, de toute façon, je condamne tous les entraîneurs, directeurs sportifs et présidents qui justifient les mauvaises performances de leur équipe à cause des arbitres. Alors que on a.
Non, mais moi aussi. Hein,
non, mais tous, Leonardo, Juninho, Aulas, qui tu veux, hein, peu importe.
Regarde, on peut même donner un exemple pour illustrer ça. Le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Il y a un pénalty qui est flagrant sur la cheville de Mbappé dans la surface qui n'est pas sifflé. Et de l'autre côté, il y a un pénalty qui est un peu gentil sur une faute qu'il y avait eu qui permet à Messi de marquer le pénalty. On est sur un fait de jeu et on peut critiquer l'arbitre si derrière le Paris Saint-Germain fait pas son match. Quand on voit que l'équipe qui est meilleure fait le match qu'il faut faire, même à la fin de ça, il n'y a plus de débat. Le Paris Saint-Germain gagne 4-1.
Mais de toute façon,
même
moi,
s'il y a deux fautes d'arbitrage, une équipe qui est bonne n'a pas besoin de l'arbitrage pour gagner.
Exactement. De toute façon, toutes les équipes qui gagnent le championnat chaque année ne le gagnent pas grâce à des décisions favorables niveau de l'arbitrage. C'est aussi parce qu'ils jouent mieux que les autres. Donc moi, ça, j'en suis totalement convaincu. Je trouve ça dommage. Moi, la réaction effectivement de Juninho. Moi, comme je le dis, je suis inquiet pour Lyon. Parce
surtout,
que
Garcia avait fait une très bonne réaction en conférence de presse. Oui, oui. C'est là où je comprends pas.
Après, t'es à la sortie du match, t'es à chaud, tu voilà, c'est toujours la faute de l'arbitre.
Ça, je suis pas
début.
D'accord. Pas pour un directeur sportif. Je suis d'accord. Avoir le recul.
Je suis d'accord. Bah après, Garcia en a fait des pas mal aussi de temps en temps.
Mais bien sûr. Avant d'arriver à cet Olympico, messieurs, il y a eu Angers-Lens qui en fait 2-2, Reims, Montpellier 0-0, Lorient qui s'est imposé face à Saint-Etienne catastrophique, Nîmes-Nantes dans le duel des nuls. Hein,
j'aurais dit le duel de la peur.
Ils sont nuls quand même.
Attends, par contre, tu as parlé vite fait de manière sommaire de Lorient, mais Lorient, faut quand même mettre en avant, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, qu'ils ont renversé un scénario dans lequel ils étaient menés 1-0.
Bien sûr.
Et Lorient, au courage, et franchement, ils ont fait une superbe deuxième période, dans la continuité d'ailleurs de leur dernière sortie, ont réussi à aller chercher les 3 points, et avec la manière, chapeau
et puis,
à Lorient.
Et puis quand même, anecdote assez énorme, doublé de l'Orienté qui joue à Lorient.
Ouais,
c'est énorme ça quand même.
Ouais, c'est vrai.
C'est l'Orienté qui joue à Lorient, donc c'est un beau clin d'œil. Elle est con, mais qu'est-ce que. Elle est con, mais qu'est-ce que.
On l'a pas encore ce jingle.
Ah, si, on l'a, on peut l'avoir. On peut tout avoir, cher KS.
On peut tout avoir.
Tout. Nîmes-Nantes, donc un partout. Lille, j'ai cru au faux pas de Lille hier soir, messieurs. José Fonde qui vient égaliser à la 86e minute. Ça m'aurait fait plaisir personnellement, ce faux pas de Lille. Et pourtant, Lille qui continue à ne pas perdre. Hein.
Ouais. Mais pour moi, Lille hier, c'est l'analyse que j'en ai faite, Lille hier a brûlé son joker. Vraiment, surtout avec l'arrivée de ces 3 matchs couperés qu'on a cités, Lyon et Lille vont devoir jouer contre les 3, alors que le Paris et Monaco ont déjà joué leur match. Quand tu t'apprêtes à jouer en l'espace de 6 journées contre Paris, contre Lyon et contre Monaco, tu te dois d'avant d'aller chercher sur des matchs faciles comme à Strasbourg les 3 points. Là, pour moi, Lille a brûlé son joker. Lille avait un joker. Elle était le seul des 4 concurrents au final fort de la Ligue 1 à l'avoir. Et elle l'a brûlé bêtement contre une équipe de Strasbourg qui était largement battable.
Ça, c'est sûr.
Messieurs, on est toujours sur
RKS.
C'est pas trompé de bouton cette fois.
Je me suis pas trompé de bouton. Allez, on va parler de l'Olympico. Hier, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais qui se sont séparés sur le score. 2-1 partout. Messieurs, un match... J'ai pas trouvé que c'était le plus intéressant des Olympicos qu'on ait connus ces dernières années. Il y a eu des choses pas mal. J'ai vu des joueurs de caractère du côté de Marseille quand même qui m'ont rassuré.
qui m'ont rassuré. Mais Lyon les a laissés espérer.
Mais Lyon a laissé espérer. On pourra revenir sur ce carton rouge. Pour moi, vous savez que je suis supporter lyonnais, mais je pense qu'il y a pénalty.
Bah oui, bien sûr qu'il y a pénalty.
Même si le règlement dit il touche une partie du corps et après c'est le bras, il n'y a pas pénalty. Ça change
la trajectoire. Ça a changé le règlement. Le règlement, c'est plus ça maintenant. Le règlement, c'est.
Bah, hier soir, ils n'étaient pas tous d'accord. Hein.
Bah ouais, mais normalement, le règlement, on en a parlé en plus en début de saison, je crois. Le règlement, maintenant, c'est main décollée du corps. Il n'y a plus de notion d'intentionnalité ou de non-intentionnalité. Si tu touches le ballon avec le bras, ton bras est décollé du corps dans la surface, même si le ballon ne va pas en direction du but, c'est pénalty. Voilà. Après, jaune, pas jaune, peu importe. Mais
le jaune est sévère parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Et après, du coup, ça fait le rouge pour Paqueta. Alors que bon, il aurait pu avoir un rouge direct hein, sur la faute qu'il fait aussi.
Oui, parce que c'est dangereux quand même.
Voilà, c'est dangereux quand même. Messieurs, on a pour moi assisté à un des matchs les plus équilibrés de la saison. J'ai vu deux équipes avoir chacun leur temps. De leur temps fort.
Mais c'est toujours pareil. Ils ont chacun leur temps fort. Si Lyon maintient le rythme et l'intensité pendant qu'ils ont eu les 30 premières minutes sur tout le match, ou au moins sur 80 minutes, mais Marseille n'existe pas dans ce match. Je suis désolé.
Je suis d'accord.
Moi, je sais pour ça que.
Pour vous, c'est une erreur de Lyon.
Oui, c'est une erreur de
Lyon. Donc c'est deux points perdus pour Lyon.
Mais bien sûr, et en plus, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi Lyon a baissé d'intensité, pourquoi Lyon a reculé au lieu de justement tuer le match. Garcia l'a dit en conférence de presse, comme tu l'as dit, ils auraient dû le faire. Pourquoi les joueurs ne l'ont pas fait? Et là, faut pas me sortir les excuses de il y a l'Europe à côté, il faut faire attention, ouais, pas les blessures, il y a rien à jouer cette année. Donc cette année, faut tout donner sur la Ligue 1 et sur des matchs contre Marseille, qui plus est contre des équipes serpillères comme ça, il faut y aller quoi. C'est là où tu dois dans les sorties de vestiaire, allez, on y va, les gars, on les défonce. Bah oui, parce que c'est un Olympico, c'est un match en jeu, on sait que c'est des clubs qui s'aiment pas. Bah là, ok, mais enfin, je veux dire, il faut...
Tu sais, à la fin des 30 premières minutes du match, je me dis que Lyon va gagner 3 ou 4-0. Si je claque un pari, peu importe, une bet-click à la 30e minute du match, je suis capable de mettre une cote à 3-0 pour Lyon en fin de match. Et derrière, pareil, je suis d'accord avec Kevin. Inversion, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. Et bon, après, tu peux avoir différents. On va pas trouver un coupable, on va pas tirer, mais je trouve qu'Awar a été transparent.
Awar le problème, c'est qu'Awar et Depay n'ont pas été bons, donc forcément.
Depay, il a pas été très très bon, pas très juste comme il peut l'être. Je trouve que les latéraux n'ont pas apporté ce qu'ils peuvent apporter à l'image de Léo Dubois sur certains matchs. Et puis Paqueta. Enfin, Paqueta, il fait une grossière faute sur Depay. Sincèrement, même s'il prend
sur
pas
de le paillette, sur Depay, c'est compliqué.
Paillette. Franchement, sincèrement, la faute que fait Paqueta sur Paillette, 10 sur 10, il refait une VAR, il y a rouge direct.
Où le pied
tape sur la malléole, le faux débat de dire que sur le premier carton, il n'y avait pas jaune et donc là, ça faisait pas
non,
rouge.
Non, c'est un faux débat, donc, je suis d'accord.
Le crampon sur la malléole de Payet, c'est rouge direct. Si c'est revu à la VAR 10 fois sur 10, c'est rouge.
Et peu importe d'ailleurs si c'est une question d'intention de faire mal ou pas. Et encore une fois, là, il n'y a pas de caractère d'intentionnalité. C'est un jeu dangereux, c'est rouge. Même si t'as pas, heureusement que t'as pas envie de faire mal aux joueurs à chaque fois, quoi.
Mais ça, je suis d'accord.
Mais oui, je suis d'accord. Par contre, et un peu à l'image de ce Lyon qui m'inquiète, c'est la forme d'Awar qui m'inquiète sur toute la saison. Je le trouve ronronnant. T'as l'impression que il est à 60% de ce qu'il sait faire,
ouais,
quoi.
Je suis d'accord avec toi. C'est suffisant.
Ah ouais, c'est suffisant. Il fait rien. Il est monté. J'ai l'impression qu'il est monté tellement haut l'an dernier avec ce parcours en Ligue des Champions, les premières sélections en équipe de France, et que là il redescend. Mais
alors que c'est l'année de l'Euro.
Alors que c'est l'année. Oui, c'est ça. C'est une année super importante. Il n'est pas forcément. C'est pas gagné pour lui. Hein.
Moi, sur le match d'hier, je prends Camara. Oui, je prends Camara à la place d'Awar, hein, je vous le dis.
Non, mais Deschamps n'est pas amoureux d'Awar en plus. Hein.
Non, pas du tout.
Donc, et il l'a bien dit en plus, hein, que c'était loin d'être fait pour Awar. Et justement, ça me déçoit. Alors, moi qui étais tout prêt à appeler Agnelli pour qu'il signe Awar à la Juventus, je t'avoue que ce Awar-là, je ne veux pas, moi. Hein, parce qu'on en a déjà suffisamment des joueurs qui ronronnent en ce moment. Donc, non.
C'est une équipe qui ronronne chez vous.
Ouais, c'est ça.
Messieurs. Un joueur, moi, qui m'a impressionné, je viens de vous le dire, c'est un volume incroyable.
Je vais vous le dire.
C'est Camara. Non, mais c'est Camara. Oui. Camara, quel volume de jeu.
C'est peut-être un des seuls Olympiens qui est bon cette saison.
Non, mais c'est un des joueurs qui va se vendre très cher.
Oui, oui.
On va pas se mentir, mais l'Olympique de Marseille va pas pouvoir le garder.
Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à l'OM aussi cette semaine.
Mais bien sûr.
Parce que c'est quand même hors du commun, tout ce qui s'est passé
lunaire.
Encore dans ce club.
Ah, il faut savoir que.
On aurait pu faire l'émission sur
ça. Il faut savoir que Jacques-Henri Hérault a été mis dehors. C'est Pablo Longoria. 34 ans. Alors lui, c'est un magicien à 34 ans. À 28 ans, il était recruteur à West Ham.
Ouais.
29 ans,
il était à la Juve aussi.
29 ans, directeur sportif à Séville. 30 ans, directeur sportif à la Juve. Et là, président de l'Olympique.
Il était responsable de recrutement. Pas directeur sportif. Mais bref. Ouais,
c'était un Florian Maurice.
On dirait l'évolution de Melvin chez Panasonic.
Voilà, exactement, c'est ça, c'est un peu ça. Sauf que c'est.
Écoute,
on n'a pas, pas le même salaire. On n'a pas le même salaire que Pablo Longoria. Pas moi. J'aurais aimé. En tout cas,
C'est pas encore fini, t'es encore jeune, Melvin.
C'est vrai.
Encore une marge de progrès.
C'est exactement ça.
D'ailleurs, on lui a proposé un poste dans le Sud il n'y a pas longtemps.
Ouais, ça, j'aurais pu partir dans le PACA, c'est vrai.
T'aurais pu faire comme Longoria jusqu'au bout.
C'est vrai. J'aurais pu y aller.
Il a refusé juste pour le RKS Foot.
Exactement.
Et regardez quelle chance on a.
Exactement. Justement, et l'arrivée de Jorge Sampaoli.
Ouais.
Ça va être quand même quelque chose parce que c'est un personnage.
Ouais.
Je sais pas si c'est un entraîneur, mais c'est un personnage.
Ouais, si c'est pour faire du bras à l'Argentine.
Bon, par contre, ce qu'il fait au Brésil, à rentrer sur le terrain toutes les deux secondes, aller voir les arbitres, en France, il prend 30 matchs de suspension. Non, mais parce que c'est arrivé 10 fois dans la saison, quand même.
Non, mais ce mec-là, pour moi, il a perdu toute crédibilité depuis qu'il a fait ce qu'il a fait avec l'Argentine. Autant au Chili, il y avait quelque
c'est
chose,
ce il a
fait
même.
Quelque chose de bon, avec une super génération aussi, mais il a fait quand même quelque chose de très sympa avec le Chili. On sait que c'est compliqué en plus pour des nations comme le Chili d'exister dans cette Amérique du Sud avec notamment les mastodontes Brésil et Argentine. Il a fait quelque chose de super. Et derrière, il a fait n'importe quoi, et aussi bien avec Séville où ça a marché un temps, ça a marché 3 mois et après ça s'est complètement cassé la tronche. Et derrière, au final, il signale avec l'Argentine. Mais au final,
son image colle avec celle de Marseille, hein, dans la connerie.
Ouais, mais justement, ouais, quand ça colle trop des fois, tu sais quoi,
c'est un Bielsa low cost. Mais vous avez vu, hein, Marcelo Bielsa a été interviewé justement sur l'arrivée de Sampaoli et il a dit que pour lui, il était bien meilleur
si
que...
Qu'est-ce
qu'il a dit Marcelo Bielsa?
Jorge Sampaoli est muy talento et la equipo de Marsella est...
De la glacière.
Si, donne malacqua, per favor.
Non mais c'est voilà, Marcelo Bielsa, vous l'avez entendu sur l'interview, il parle de Sampaoli comme finalement non pas son disciple mais quelqu'un qui est meilleur. Mais j'aimerais aussi avoir l'avis de Omar Da Fonseca sur ce qu'a fait Jorge Sampaoli du côté de l'Argentine.
Bah si, mais attends, on est en train de dire n'importe quoi là. Et si, parce que Sampaoli, c'est quand même l'entraîneur qui a fait quelque chose de magnifique avec le Chili. Et si, il a battu l'Argentine. Et après, derrière, il a fait couler le navire. Mais c'est pas la faute de Messi. Parce que Messi, il est magnifique. Il fait l'amour sans préliminaire.
Oh, je vous jure, fermez les yeux. Parce que fermant les yeux, j'ai vraiment l'impression qu'Omar, il est avec moi.
Il n'a plus qu'à enchaîner sur la pub Unibet. Et c'est bon.
C'est énorme.
Mais si, c'est toi, c'est bête.
On salue Omar.
Tu es magnifique. Et les cordes boostées, c'est magnifique.
On salue Omar Da Fonseca, toute l'équipe de Bein Sport, et notamment Renaud Marco, un ami qui travaille justement sur The Bet et le Paris Sportif avec Omar. Messieurs, donc ça bouge à Marseille. Je ne sais pas si c'est les bons choix. Pour moi, c'est des choix qui peuvent être que
c'était
temporaires.
Nécessaire. Non, mais c'était nécessaire de, mais ça de peut... virer Héro l'incompétent et de bon Longoria. Bon, même si apparemment j'ai appris cette semaine qu'il avait été à la Juve.
Oui, tu vois, savais pas.
J'étais même pas au courant. Mais écoute, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il vaut. On va le juger sur la longueur, lui, parce que il vient d'arriver.
Mais est-ce que c'est fait pour la longueur? Est-ce que c'est pas jusqu'à la fin de la saison?
Ce qui est sûr, c'est que pour moi, entre Villas-Boas, ils ont redescendu d'une case. Là, ils ont descendu d'une marche, il n'y a aucune plus-value par rapport à Villas-Boas.
C'est toujours pareil.
Ah, mais on est bien d'accord.
C'est toujours pareil, Sampaoli, d'accord, tu fais venir Sampaoli. Même si, allez, admettons que ce soit un bon entraîneur, il sait parler français déjà ou pas? Parce que si c'est pour faire encore.
Non, c'est pas parler français.
Super, déjà.
Bah, il y
déjà. Mais la moitié de l'équipe, elle est française. Là, tu fais quoi avec Sampaoli déjà? Moi, ça, c'est ça qui m'énerve. C'est que tu mets des entraîneurs
mais
comme ça.
Avec Di Benedetto, sur le banc.
Ouais,
sur le banc,
magnifique. Non, mais enfin, je veux dire, faut. Moi, je suis désolé, je le vois arriver avec ses tatouages de partout, là. Je veux dire, mais à quel moment je sais pas. Pour moi, ça va pas fonctionner. Oui, c'est un tempérament de feu, et on est en train de penser que oui, tempérament de feu, à Marseille, ils aiment bien les tempéraments de feu, les sangs chauds, etc. Mais ça, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que ça va pas fonctionner. Il va faire 5 matchs, il va perdre 3 fois, et vous allez voir qu'ils vont vouloir lui mettre le feu à lui aussi. Donc, ça sert à,
c'est possible.
Sauf que c'est lui qui va mettre le feu à la Canadienne.
C'est ça.
Et tiens, messieurs, en parlant de feu, On en parle de la prise de tête entre le frère de Neymar et Alvaro.
J'ai pas vu celle-là.
Ouais.
Tu n'as pas vu le frère de Neymar, Depay, hein, bien sûr, c'est de Depay que je parle. Hein.
Tu parles de Depay ou d'Alvaro?
Oui, l'embrouille entre Depay et Alvaro.
Alvaro et Depay se sont pris d'ailleurs un jaune chacun. Ils sont venus aux mains, ils se sont quasiment un peu étranglés à un moment sur le terrain.
Ouais, tête à tête.
Et ça a frissé.
Bon, Alvaro, quand il aura mis un pain à tous les attaquants du championnat.
Après Paredes, Alvaro, c'est la plus grosse serpillère de la Ligue 1. Non, mais c'est la vérité. Parce que Depay, je pense pas que ça soit un mauvais quand même.
Non, et puis c'est surtout que Depay, il considère Depay, Neymar comme son frère.
Depay, c'est du paraître. Non, mais Depay, c'est du paraître. Depay, c'est du paraître.
Oui, parce que je pense que c'est un bon gars.
Il se prend pour un gros rappeur, comme ça, il aime bien passer pour le bad boy.
C'est
et
le 50 Cent du football.
Voilà, c'est le 50 Cent, quoi. Mais bon, il est tout gentil, 50 Cent, on sait que
c'est pour ça. Il est très intelligent, d'ailleurs. Et je pense que Depay est de la même trempe. Messieurs, on va changer de sujet, puisqu'il faut parler maintenant de Ligue 2. On se retrouve dans un instant.
RKS.
Allez, on va passer sur notre page Ligue 2 avec notamment le GF 38 ont joué en Ligue 2 la 27e journée. Des matchs importants, des choses se sont passées puisque tout d'abord en l'ouverture de cette journée, 3, le leader s'est imposé 1-0 face à Ajaccio. Toulouse, le deuxième, le second s'est imposé 3-0 face à Amiens. Clermont aussi à la lutte dans ses playoffs s'est imposé 4-0 face à Valenciennes. La bonne nouvelle pour le GF 38, c'est la JOCR qui s'est inclinée 1-0 face à Rodez. Par contre, la moins bonne nouvelle, c'est le Paris FC qui s'impose à Caen, justement l'équipe de Pascal Dupraz, 2-0. Et le GF 38, messieurs, qui fait un 1 partout, encore un but à la 84e minute de Moussa Djité qui sauve. Mais c'est
le joker de luxe, Djité.
C'est le joker de luxe qui est titulaire, mais moi j'ai vu le match. C'est une pâle copie que rend le GF 38 de ce match. Ils auraient pu, mais littéralement, bouffer Niort et gagner facilement. Un manque de réalisme.
C'est le ressenti que j'ai eu en regardant le résumé. Ouais. Je me dis, mais comment ils font déjà pour se sauver in extremis à la 84e minute? Quand tu vois la domination qu'ils ont eue, c'est vrai que je me l'explique pas.
Mais moi, je l'explique. C'est au milieu de terrain où je trouve qu'il y a une petite faille. On a du mal à trouver entre Manu Pérez, entre Flo Michel, entre Jesse Benet, entre Kevin Tapoko. On a du mal à trouver un équilibre du coup au milieu de terrain. Parce que devant, finalement, avec Moussa Djité, Enen, Diallo, Anani, on a de la ressource. Mais c'est pas toujours alimenté comme il le faut.
Il manque le meilleur joueur de toute façon quand t'as pas ton meilleur joueur avec toi.
Loïc Nestor?
Ravé.
C'est vrai qu'il n'y a pas Yorick Ravé, pardon. Oui.
Quand t'as pas Ravé, la vie elle est plus compliquée quand même. On sait que l'équipe de Grenoble, tu enlèves peut-être 2-3 très bons joueurs de Ligue 2. Derrière, tu joues pas les 5 premières places. Hein. Et dès que on peut regarder les stats de avec et sans Ravé, je pense qu'on peut pleurer 2 minutes quand même. Hein.
Je pense.
Donc. C'est...
Après, comptablement, le GF 38 reste sur une invincibilité à domicile. Ils sont à 49 points, alors que le premier 3 à 55, Clermont 52, Toulouse 52. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est faut pas qu'on perde de mire cette 5e ou 4e place qui est synonyme de play-off. Parce que si le Paris FC ou Auxerre nous passe devant, on est 6e, il n'y a plus rien à jouer, c'est pas marrant. Je pense que le GF 38 doit vraiment, aujourd'hui, doit déclarer avoir cet objectif de finir dans les 5 premiers pour aller faire vibrer.
On n'a pas besoin qu'ils le déclarent au public.
Non, quand je dis le déclarer à eux-mêmes.
Sauf s'ils veulent le déclarer chez nous, ce serait bien.
Oui.
Mais je veux dire, ils n'ont pas besoin de le déclarer. S'ils se le sont dit entre eux, moi, ça me va très bien.
Mais il faut, j'espère.
Voilà, j'espère qu'ils se le sont dit. J'espère que, comme j'ai dit, on va attaquer la 28e journée, le prochain match. C'est-à-dire qu'il va rester 10 matchs. 3 prochains matchs, on joue Le Havre, Pau. Et après, on joue Paris FC. Il faut déjà qu'on gagne absolument contre le Havre.
On va jouer Paris FC. On va jouer contre 3.
Oui.
On va jouer contre Toulouse. On va jouer contre Clermont.
C'est pour ça qu'on doit absolument bien jouer contre le Havre et contre Pau et repartir avec 6 points pour pouvoir aborder la rencontre contre le Paris FC décomplexé. Sans avoir peur justement de se faire passer devant.
Parce que c'est le plus important pour moi.
Et c'est le plus important.
Parce qu'on ne va pas aller chercher la deuxième ou la première place.
Et après,
c'est pas
possible. Il te restera 8 matchs à négocier. Si tu gardes ces 5-6 points d'avance sur le Paris FC à 8 matchs de la fin, après, faudra arrondir les angles un peu comme qu'ils ont fait contre Niort. Il faut arrondir les angles et puis essayer de voir si ça peut passer. C'est pas gagné, c'est sûr. Mais de toute façon, ça n'a jamais été gagné d'avance. Hein. On a au moins pour nous le fait d'avoir une très bonne défense, je trouve.
Et pourtant, il n'y avait pas Loïc Nestor. Qui est certainement le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs de la Ligue 2 cette année. En tout cas, effectivement, ça promet autant qu'en Ligue 1. une fin de championnat en haut de tableau du côté de la Ligue 2 qui va être très animée parce que c'est pas décroché entre Troyes, Clermont et Toulouse qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Grenoble, Auxerre et Paris jouent vraiment les play-offs juste derrière. Ça reste quand même, messieurs, cette année, des championnats français.
Oui, c'est ça. Il se passe des choses.
Il se passe des choses. Je dis pas que c'est de la plus grande des qualités, mais en tout cas, il se passe des choses et ça nous fait plaisir et ça nous permet d'en parler comme il se doit ici. Dans notre émission.
On a une colonne vertébrale qui est totalement absente là. Il nous manque effectivement
Nestor.
Il nous manque Maubleu et il nous manque
Gravé.
Voilà. Moi j'ai toujours bien aimé Anani aussi devant. Je trouvais qu'il apportait pas mal de choses.
Il a fait une très très bonne rentrée.
Ouais, mais voilà. Mais du coup, forcément, tu joues. Bah voilà. Après, du coup, tu fais jouer NN qui joue quasiment jamais.
Voilà. Il y a Willy Semedo sur le banc. C'est pour ça que je dis qu'offensivement, il y a quelque chose. Hein.
Oui.
Mais si c'est mal
alimenté. Pas qu'il y ait trop de blessés et il faut surtout pas paniquer. Justement. Là, le discours que doit avoir. Mais j'ai aucune inquiétude sur ça. Mais le discours que doit avoir Hinsberger, c'est écoutez les gars. On y est, 5 points d'avance, on négocie bien les deux prochains matchs, comme ça Paris, on sera tranquille, on pourra se dire qu'on met le bus et qu'on essaye de repartir avec un nul, et derrière, après, on aborde sereinement les huit derniers matchs.
Exactement, messieurs, il est l'heure de se quitter, messieurs, parce qu'il est bientôt 20h sur RKS. Je veux vous remercier encore pour cette émission de qualité. La semaine prochaine, on retrouve encore un invité de marque avec nous. Voilà. On vous garde la surprise. Restez connectés sur les réseaux sociaux.
Et on aura Pierre avec nous.
Pierrot avec nous.
Voilà.
Bisous mon Pierrot. Bisous. Allez, mon Kevin.
Bisous.
Bisous les amis. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.
Le RKS.